Bonjour, chers amis, comment allez-vous? J'étais avec vous pendant la récitation les chants. Ça me permet de pouvoir me retremper un peu dans l'ambiance de l'Institut de Montréal. On est le 17 février 2013 et je suis retourné à Ho Chi Minh City depuis à Saigon depuis 2 jours. Bonne et heureuse nouvelle année du serpent à vous et à toutes vos familles. Beaucoup de paix, de sérénité et d'amour. Un peu de désir. Rien à atteindre parce que vous avez déjà tout ce dont vous pouvez avoir besoin et vous êtes déjà ce que vous voudriez peut-être être. Vous êtes déjà ce que vous désirez être. On est à Saigon et la moitié de la ville est partie chez eux, dans leur famille. Il y a beaucoup moins de trafic. La plupart des commerces sont fermés, très peu de circulation. La température est merveilleuse dans la 18 le soir, 25 le matin, très très clair, très beau. Ça fait 2 mois que je suis ici et on a toujours eu une excellente température jusqu'à aujourd'hui. Je voulais vous partager peut-être l'expérience que je viens de vivre il y a 2 semaines. J'ai passé par de Thaïlande et au monastère de Thaïlande de Lily pourra vous montrer quelques images que je lui ai envoyées pour vous partager mon bonheur. C'est un camp, Shiv Camp, qui a reçu les moines moniales qui ont été expulsés du Vietnam. Et ils étaient arrivés là dans une terre, dans une ferme fruitière. Il y avait 2 toilettes, une petite maison qui pouvait accueillir 10 personnes, mais ils étaient arrivés 120. Alors, donc, c'était des installations de fortune avec des bâches pour protégés contre la pluie et peu à peu ils ont construit des chaumières, des maisons en chaume. Le sandal, il y a 2 est une dalle, ce n'est même pas une dalle de béton, c'est une dalle en terre battue avec des poutres de bambou et un toit de chaume. Mais il est assez grand pour pouvoir recevoir 200 personnes. Et c'est juste un toit de chaume et un plancher de terre battue. C'est ouvert au vent, mais c'est très très rustique et c'est très romantique aussi. Dortoirs sont aussi des petites cabines qui peuvent accueillir de 8 à 12 personnes. Les meubles sont des lits de bambou. Quand je dis lits, c'est ces choses-là qu'ils font pour recevoir les corps des personnes défuntes avant leur enterrement. Alors donc, ce sont vraiment des trucs très très rustiques, banal. Les installations où nous dormons, ce sont des petits dortoirs de 8 à 12 personnes sur des lits de bambou, pas de matelas, une natte directement sur le sommier de bambou et des moustiquaires. Alors, au cas où vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des voiles que nous devons mettre, suspendre et bien bordé pour ne pas se faire manger par les moustiques. Il n'y a pas d'électricité d'air climatisé, on a de l'électricité, donc on peut être éclairé. Les douches sont des écrans courants, donc on utilise des réservoirs d'eau et un arrosoir pour prendre la douche. Vous pouvez imaginer comment simple la vie peut être dans ce monastère. Les moniales, moi et moi, sont là depuis 2 ans. La terre nous a été prêtée pour 2 ans. À l'heure où on se parle, ils sont en train de déménager pour rentrer dans leur nouveau monastère. Et c'est un nouveau monastère très moderne, avec des installations pour 100 moniales et 50 moines, avec des installations de cuisine moderne. En tout cas, vous pouvez imaginer comme construction récente dans les normes. Donc, je suis très heureux d'avoir eu la chance de vivre cette expérience, d'être dans ce monastère dans ce monastère temporaire, avant qu'il soit remis au propriétaire de la terre. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris sur moi-même comment notre attachement aux conditions matérielles peuvent être une source de souffrance. Je suis très heureux de pouvoir vous rapporter que le séjour que j'ai passé là est peut-être l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. On peut être très heureux avec peu de choses. On peut être heureux dans une chaumière sans plancher, sans mur, sur un lit, couché sur une natte sans matelas, avec un moustiquaire pour nous protéger des insectes. On se lève avec le chant des coqs. Le matin, il fait encore sombre, mais l'écho se réveille à 4h, 4h30, et c'est l'heure où on se réveille. C'était la semaine des festivités du Tet, il n'y avait pas de programme communautaire fixe, mais chaque personne était invitée, ou non, pas invitée, rester avec leur pratique individuelle. Je ne peux pas vous le certifier, mais je pense que toutes les personnes qui étaient présentes se levaient également vers cette heure-là et commençaient la méditation du matin sur leur lit. Que le lit est déjà est couvert par les moustiquaires, donc c'est aussi le coussin de méditation. Alors donc tout est là et on peut juste se lever et commencer notre pratique sur le lit. En fait, on appelle ça lit, mais c'est aussi la place où on entrepose nos effets personnels. C'est aussi la place où on est assis en méditation. C'est aussi la place où on mange. Et sur les photos, vous pourrez voir comment, malgré ces conditions très minimes, comment nous avons pu avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et de bonheur ensemble. J'ai parlé longuement de cette expérience parce que ça correspond beaucoup au thème de notre journée de pleine conscience d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, si je me souviens bien, c'est l'absence de désir. Le thème d'aujourd'hui fait partie des trois portes de libération que nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en train d'étudier les trois portes de libération dans le cadre, dans le contexte de notre programme d'études du Sutra du Diamant. Le Sutra du Diamant, qui est un grand, grand sutra très compliqué. Donc, nous sommes, mais comme nous sommes dans un stage avancé de notre pratique, ça ne devrait pas être aussi compliqué ou difficile que ça pourrait paraître. Mais, comme tous les enseignements que nous apprenons à l'Institut et dans le bouddhisme, tous les enseignements du Bouddha n'ont seulement qu'un seul, n'ont pour moi qu'un seul objectif, celui de nous aider à pouvoir reconnaître nos souffrances afin de nous trouver le moyen de nous en sortir. Et tous les enseignements du Bouddha, pour moi, doivent remplir cet objectif. Et Thay nous rappelle aussi que les enseignements du Bouddha, s'ils ne s'adressent pas, s'ils ne s'appliquent pas à nos propres souffrances, si elles ne nous permettent pas de pouvoir nous en libérer, si elles ne s'adressent pas à nos vraies souffrances personnelles, ce ne sont pas des enseignements bouddhistes. Alors donc, tout ce que nous avons appris depuis le début de l'année, nous avons regardé les sept facteurs d'éveil. Les sept facteurs d'éveil sont cette voie qui nous permet de pouvoir nous éveiller, éveiller dans le sens de nous libérer des sources de nos souffrances. Nous avons regardé les quatre nobles vérités pour nous rappeler que les enseignements du Bouddha commencent par la reconnaissance. La reconnaissance et l'identification et la compréhension de nos souffrances, des sources de nos souffrances, afin de pouvoir comprendre, afin de nous aider à choisir la voie qui peut nous permettre de nous en sortir. Les quatre nobles vérités, le chemin octuple, les cinq entraînements à la pleine conscience, les 14 entraînements à la pleine conscience sont générales, universelles, et elles s'adressent à toutes les souffrances du monde, mais elles s'adressent aussi à nos propres souffrances individuelles. Et Lily a préparé un excellent document et je pense que vous devez déjà que vous devez l'avoir déjà lu, revu ou reçu, où elle identifie les quatre nobles vérités et avec des questions pour voir comment, pour nous aider à les appliquer à notre vie, à notre propre pour pouvoir identifier quelles sont nos souffrances et nous permettre de pouvoir y réfléchir, les contempler et identifier, nous identifier une voie, une pratique personnelle. Je nous avais recommandé de pratiquer avec le livre The Blooming of the Lotus. Un lotus épanoui, où il y a plusieurs exercices de méditation guidés que nous pouvons utiliser dans notre propre pratique personnelle journalière. En fonction de ce que nous avons identifié avec les quatre nobles vérités, les points que nous voulons regarder parce que nous savons que ce sont les points qui sont à l'origine de nos souffrances. Choisir l'exercice du lotus s'épanouit et les inscrire dans notre programme de pratique individuelle. Il y a des exercices qui nous permettent de pouvoir nous arrêter et revenir à nous, à l'instant présent. Il y en a qui nous permettent de pouvoir nous renforcer et nous rafraîchir et nous alimenter. Et il y en a aussi qui nous permettent de pouvoir regarder des points particuliers, comme par exemple ce matin, la méditation guidée que Lily nous a entretenue, qui consistait à regarder nos souffrances qui sont causées par nos désirs. C'est une très bonne méditation, mais nous pouvons peut-être avoir besoin des autres exercices qui sont aussi dans le livre et qui peuvent mieux s'appliquer à notre condition actuelle, courante d'aujourd'hui. Lorsque j'avais mentionné ce livre et que j'avais mentionné l'exercice de méditation, j'avais parlé de diligence de pratique. Et la pratique diligente veut dire une pratique continue, assidue, mais veut dire aussi une pratique planifiée, que nous pouvons nous établir sur la base d'une semaine, si c'est quelque chose que nous, en fonction de ce que nous vivons, ça peut être un programme mensuel, ça peut être un programme annuel, mais ce serait, c'est conseillé d'avoir un programme de pratique. Et si tout ce dont nous avons besoin, c'est une pratique de relaxation, c'est une pratique de retour chez soi, c'est une pratique d'alimentation et de rafraîchissement, on peut aussi le faire, mais ça doit être inscrit en fonction du programme de pratique que nous nous sommes donné. Alors, je ne sais pas si vous voudriez, si ça vous tente de le faire, mais vous pourrez toujours consulter Lily sur une base, je ne sais pas, personnelle, individuelle, si elle a le temps, mais lui parler du programme que vous voulez vous donner sur une base hebdomadaire, journalière ou mensuelle. J'aime beaucoup les programmes que je reçois et que je vois pour les lundis soirs et les mercredis soirs. Et notre programme des journées de pleine conscience mensuelle, parce qu'elles sont toutes intégrées. Et c'est de regarder pour voir comment nous pouvons adopter ces pratiques hebdomadaires dans notre vie de tous les jours, les pratiques, les thèmes des journées mensuelles et les intégrer en fonction de nos besoins personnels. La pratique des quatre nobles vérités, la pratique du chemin octuple, la pratique des cinq entraînements à la pleine conscience, des 14 entraînements à la pleine conscience, avec l'aide, ou bien dans le contexte des trois joyaux, des trois refuges. Comme pratiquants, nous savons que tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous discutons ensemble n'est que gros bon sens et logique. Par contre, sur notre chemin de pratique, nous nous apercevons aussi que nous avons besoin des trois joyaux pour nous supporter et nous aider dans notre pratique. Et le Bouddha, le Dharma et la Sangha, les trois joyaux dont nous avons besoin, qui nous supportent et qui nous protègent pour nous permettre de pouvoir pratiquer à transformer nos propres souffrances. Nous avons aussi regardé les trois sceaux du Dharma, trois Dharma-sceaux, la permanence, le non-soi et le Nirvana. Les trois sceaux du Dharma sont des clés sont des pratiques qui nous aident à pouvoir réaliser les quatre nobles vérités. Regarder l'impermanence, comprendre l'impermanence, pour pouvoir comprendre que les souffrances que nous avons et qui sont causées par l'impermanence ne sont dues qu'à notre ignorance ou oubli, que nous voulons que les choses soient permanentes alors qu'elles ne le sont pas. Nous voulons que les choses durent éternellement et elles ne durent pas. Comprendre l'impermanence pour pouvoir comprendre l'interdépendance. L'interdépendance qui nous permet de pouvoir réaliser que le soi, notre moi, est fait de tout ce qui est non-moi. La fleur qui est faite d'éléments non-fleurs. Nous qui sommes faits de tout ce qui est non-soi. Le nirvana, ou l'extinction de toutes les notions et concepts, est de nouveau réitéré dans le Sutra du Dhamma, avec l'enlèvement ou l'effacement des quatre notions. Les notions du soi, les notions de l'être humain, la notion des êtres vivants, et la notion de la durée de vie. Le Sutra du Dhamma parle de la transformation de la souffrance par la compréhension ou l'enlèvement de ces quatre notions. Et ces quatre notions ne sont que quatre, et il y a un tas d'autres notions qui sont aussi à la base de nos souffrances. Et la pratique du Sutra du Dhamma, qui nous permet de pouvoir transgresser, transcender ces quatre notions, peuvent ouvrir notre vision et notre compréhension afin de nous permettre de pouvoir pratiquer le nirvana, qui est la transcendance de toutes ces notions. Toutes les notions dont on parle peuvent être interprétées comme des signes. Et le mois dernier, Lily vous a parlé de la deuxième porte, qui est l'absence de signes. Les quatre notions que le Sutra du Yaman nous enseigne, nous encourage à enlever. Le Sutra du Diamant nous encourage à enlever les quatre signes du soi, de l'être humain, des êtres vivants. L'idée, c'est que les notions sont des causes de nos souffrances parce que nous ne savons pas voir ou regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que nous sommes accrochés, attachés aux signes, aux perceptions. Parce que nous prenons des perceptions pour la réalité, où nous vivons dans ce monde de perceptions qui devient notre monde réel. Et là où il y a perception, là où il y a des signes, parce que les signes sont des perceptions, il y a déception. Et c'est l'enseignement du Sutra du Diamant. Et c'est aussi l'enseignement de la deuxième porte de libération. Regarder les signes et savoir que ce sont des signes pour ne pas s'y laisser prendre, c'est une pratique. Les trois portes de libération ne sont pas des concepts à étudier pour pouvoir en discuter, pour pouvoir en parler. Thay utilise une phrase qui est très forte. Ce ne sont pas des dogmes pour lesquels nous pouvons tuer. Ce ne sont que des outils, ce ne sont que des pratiques. Et ces pratiques ne sont utiles que si nous les pratiquons et que nous les appliquons à notre situation de vie courante, actuelle, aujourd'hui. Comment pratiquer la première porte de libération? Comment pratiquer la deuxième porte de libération? Comment vivre notre vie de tous les jours avec ces deux outils constamment en fonction? Regardez chaque chose et voir que ce ne sont que des signes qui sont impermanents et qui vont changer avec le temps. Regardez un enfant et voir les parents et les ancêtres qui y sont. Se regarder dans un miroir et reconnaître l'impermanence. Se regarder dans un miroir et voir quatre grands éléments en changement perpétuel. Regarder pour voir que nous changeons à chaque instant. Regarder le monde et comprendre que c'est une perception, c'est une image. C'est une image d'un film qui se déroule et qui va changer à chaque instant. Prendre sa tasse de thé et boire son nuage, comme Thay nous enseigne à faire, pour pouvoir à chaque instant pratiquer cette vision, ces outils, et regarder le monde avec ses yeux. Les yeux, comment on peut appeler ces yeux? Ces yeux qui nous permettent de pouvoir voir les trois portes. Les yeux du Bouddha. Et avec la pratique de la vacuité, avec la pratique de l'absence des signes, la troisième porte va être évidente. Les trois portes intersont, et si nous pouvons comprendre, si nous pouvons voir la vacuité et l'absence de signes, nous pouvons voir très clairement que nous avons tout ce dont nous pouvons avoir besoin et que nous sommes déjà ce que nous voulons être parce que nous sommes impermanents. Parce que nous sommes interdépendants. Parce que cette forme, parce que cette personne n'est qu'un signe et que nous savons que les signes ne sont que des perceptions irréelles. Nous revenons à l'instant. Nous nous établissons dans l'instant présent, cet instant unique et merveilleux. Nous revenons au premier enseignement de Thay. L'enseignement sur la meilleure façon de vivre seul. Le passé n'est plus. Le présent n'est pas encore là. Il y a seulement un seul instant. C'est l'instant présent. Juste que dans le moment. Et si nous manquons cet instant, nous manquons notre rendez-vous avec la vie. La pratique de base de notre centre, de notre institut, l'enseignement de base de notre maître, Drista Dharmasukha Vihari, le bonheur dans l'instant, prendre refuge dans le bonheur de l'instant. Le bonheur est possible, le bonheur est réel, il n'y a pas de voie vers le bonheur. Le bonheur, c'est la voie. Le bonheur, c'est la vie. Et la vie, c'est le bonheur. Ici et maintenant. Ici et maintenant, l'adresse des grands êtres, le domicile du Bouddha et du Seigneur Jésus. Et cette place qui nous est disponible aussi à chaque instant, ici et maintenant. Et toutes les pratiques que nous faisons à l'Institut, toutes les pratiques que nous faisons ensemble pendant les journées de pleine conscience, toutes les pratiques que nous avons ramenées chez nous, n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous ramener dans l'instant, à chaque instant. Parce que notre pratique, si vous vous souvenez, nous pratiquons dans l'instant pour l'instant. Nous pratiquons le bonheur et nous pratiquons de façon continue. Et c'est cela la troisième porte de libération. Et c'est le thème de cette journée. Il n'y a rien à poursuivre, il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à désirer parce que tout est déjà là. Il ne nous suffit de nous arrêter pour pouvoir arriver. Arriver chez nous. Chez nous, c'est-à-dire dans cette place que nous pouvons appeler la terre pure ou le royaume des dieux. Cette place qui est disponible à chaque pas. Comme pratique que je voudrais vous recommander ou vous rappeler avec le thème d'aujourd'hui, c'est la pratique de la marche méditative. Je suis chez moi, je suis arrivé. Et dans un enseignement récent de Thay, il a invité ses moines et ses moniales à investir toute leur attention et la concentration dans chacun de leurs pas. Et dans un enseignement que j'ai répété souvent, Thay rappelle que la marche méditative, c'est le saut du village des pruniers. C'est une pratique du village des pruniers. C'est une pratique, si nous pratiquons selon l'enseignement de Thay, si nous disons des élèves de Thay ou des disciples de Thay, si nous disons que nous pratiquons selon l'enseignement du village des pruniers, ou bien non, nous ne pouvons pas dire toutes ces choses-là. Si nous ne savons pas comment pratiquer la marche méditative. Et la marche méditative, c'est le trademark du village des pruniers. On ne peut pas dire qu'on pratique dans la tradition du village des pruniers si on ne pratique pas la marche méditative. Et la marche méditative n'est pas juste de marcher lentement. La marche méditative consiste à investir toute notre attention, toute notre concentration sur chacun de nos pas afin de pouvoir réaliser le mantra Je suis chez moi, je suis arrivé. Je pose mon pied gauche sur le sol et je dis Je suis chez moi. Je fais un autre pas, je suis arrivé. Je suis chez moi, je suis arrivé. Je vous ai parlé de l'enseignement que Thay a donné à ses monastiques récemment. Il dit, et si vous n'êtes pas capable d'arriver pleinement, d'arriver à 100% avec votre pas, ne faites pas un autre pas, restez là. Reprenez votre respiration, reprenez votre concentration jusqu'à ce que vous soyez vraiment arrivé avant de faire un autre pas. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu le faire. Il y avait trop de monde derrière. Mais comme nous ne sommes pas encore des monastiques, nous pouvons quand même essayer d'arriver à 5% ou à 10% afin de pouvoir goûter un peu de cette pratique. Alors donc, pour le restant de la journée, je nous inviterai à essayer cette pratique au moins pendant le temps de cette journée. Faire en sorte que nous pouvons arriver Avec chaque pas que nous marchons pour marcher et non pas pour arriver, et que chaque pas puisse nous ouvrir la porte du royaume. Je suis chez moi, je suis arrivé. C'est aussi la pratique que Thaï nous invite à faire pour 2013. Alors, à chaque année, à l'occasion du Tet, du Nouvel An, Thaï nous donne deux verres de pratique. Alors, à chaque année, les verres changent et cette année, vous l'avez deviné, je suis chez moi, je suis arrivé. C'est la pratique du village du Prunier. C'est la pratique de tous les centres et de tous les pratiquants disciples de Thaï pour l'année 2013. Je suis chez moi, je suis arrivé. Mais comme c'est une pratique que Thaï a enseignée depuis 30 ans, et je ne suis pas sûr de la raison pourquoi il a jugé bon d'ajouter un mot à chacun de ses vers. Et Lily est en train de pratiquer très fort pour nous trouver une bonne traduction québécoise-française. En anglais, c'est I have really arrived. I'm truly home. Je ne sais pas comment traduire really et truly, mais je pense qu'avec la pratique, on peut trouver le sens. En vietnamien, c'est un peu plus long. La traduction anglaise est assez fidèle. Et j'ai hâte d'entendre la version française que vous pourrez découvrir avec votre pratique. Alors c'est je suis arrivé, mais il faut être vraiment arrivé, il faut être là. Alors comment est-ce qu'on peut décrire cette pratique? Bien, je suis chez moi. Je peux être chez moi, mais je peux être ailleurs. Je peux être physiquement chez moi, mais mon esprit peut être ailleurs. Alors, comment décrire cette pratique qui nous permet de pouvoir nous rappeler que lorsque nous sommes chez nous, que nous le soyons entièrement? La pratique, je suis vraiment chez moi, je suis bien arrivé, est une pratique que nous pouvons appliquer ou bien, pas appliquer, mais pratiquer avec toutes les autres pratiques que nous faisons. Je vous ai parlé du petit cahier que Lily nous a préparé à 5 dollars dans le magasin avec toutes les versets de pratique. Mais ce sont toutes les pratiques qui peuvent être pratiquées avec je suis chez moi, je suis arrivé. Et donc, merci d'être là, merci de pratiquer avec nous. Bonne pratique pour l'année du serpent. Et je vous laisse à Lily qui va vous parler de la merveilleuse pratique du retour et de l'instant présent. Alors donc, merci beaucoup et bonne continuation de bonne journée.
Pratique de la pleine conscience qui est vraiment la pratique. Nous avons des sutras et des thèmes dont Chen Wei vous a parlé, les quatre nobles vérités, faites comme ça si vous les connaissez, les quatre nobles vérités, les trois sceaux du dharma, les trois joyaux, les trois portes de libération, voilà, c'est ça. Alors, ok. Et si peut-être on va commencer par le commencement, on a des journées de pleine conscience comme ça. Et d'abord, nous avons des soirées de méditation. Okay? Nous nous réunissons le lundi soir, le mercredi soir, pour apprendre à vivre en pleine conscience. Alors, lorsque nous disons que nous venons ici pour méditer, c'est tellement petit dans notre pratique. On vient 2 heures ici, et après on retourne à la maison. Et ceux qui ont de la chance et qui peuvent se le permettre reviennent le mercredi et ils reviennent le jeudi pour pratiquer en anglais s'ils veulent. Mais la pratique, c'est vraiment de, comme dit Thay. Alors Thay, c'est Thich Nhat Hanh. Thay, ça veut dire maître en vietnamien. Alors on l'appelle familièrement Thay, maître. Comme il dit, la pratique ne suffit pas quand on est dans un zendo. On vient ici juste pour y goûter et après on l'emporte avec nous à la maison. Et on l'emporte avec nous là où on va. C'est une pratique continue. Il y a des livres qu'il a écrits où il parle de l'art de vivre en pleine conscience. Vivre en pleine conscience, c'est à tout moment de la journée. Et comme je le dis souvent, on pratique ici et à la maison. Mais entre ici et la maison, il y a tellement de choses. Il y a tous ces petits pas-là jusqu'à la porte. Il y a l'ascenseur, il y a la porte en bas, il y a la rue. Notre vie qui semble comme ça, elle devient de plus en plus petite parce que notre pratique, c'est dans un seul pas. Et j'aime beaucoup quand il dit... On fait un pas, et si on n'est pas arrivé, on n'avance pas. On reste là. Bien sûr, on n'est pas tous au même rythme. Comme dit Chen Hui, quand vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de la pratique au village des Pruniers, il y a 1000 personnes en train de pratiquer la marche méditative. Thay marche comme ça. Exactement comme ça. Nous le faisons trop lentement ici lorsque nous faisons comme ça. Comme ça. Faisons ça pour apprendre, pour pratiquer. Mais quand on est derrière Thich Nhat Hanh, il marche comme ça. On dirait qu'il flotte. Je vous jure, il glisse sur l'eau et sur la terre. Il glisse. Alors, c'est plus naturel et on apprend à marcher comme ça. Maintenant, si nous marchons et nous ne sommes pas arrivés, il faut vraiment le pratiquer. Je fais un pas et je vais faire un autre et puis, il y a déjà une pensée qui vient. Juste la pensée de dire « je pense » ou bien la pensée de dire « ah tiens, j'ai pas pensé maintenant. J'ai réussi à marcher sans penser. » C'est déjà une pensée. Alors, quand on fait un pas et on n'est pas arrivé, il faudrait s'arrêter. Et cet arrêt, c'est la clé. Quand on entend le son de la cloche, c'est exactement ce que nous faisons. Un son de cloche, nous respirons. 3 fois. Maintenant, même si on ne peut pas le faire 3 fois, juste une fois. Une grande respiration. Faites-le. On sent le soulagement ici, déjà. On sent la détente, juste avec une respiration. Chen Hui, il est au Vietnam. Alors, il est dans le décalage horaire. Et il oublie que... Ah oui, c'est beau. Quoi? Oui, non, je sais bien qu'il est là. Hein? C'est très beau. Vous voyez? Alors, ce que je disais... Comme il oublie, ou alors peut-être non, il n'oublie pas, peut-être qu'il veut me faire pratiquer. Il m'envoie des messages à 6 heures du matin. Je suis déjà réveillée parce que je sais que je vais venir ici, tout ça. Mais alors j'ai mon iPhone, et puis je prends des messages, et puis je vois, il envoie des photos, il pose des questions, il pose des trucs. Et puis, je pratique bien, alors je lui réponds. Maintenant, ça m'a retardé jusqu'à 8h30, où je voulais quitter à 8h moins le quart, j'habite à l'ouest tout à fait. Mais j'étais tellement consciente de ça. Et je me disais, c'est ça l'instant présent. C'est de mettre ces photos dans ma petite clé. C'est de mettre cette clé dans l'ordinateur. Et que chaque fois que j'entendais dans mon iPhone, cling, je disais, un autre message, une autre photo. J'avais déjà mon manteau et je disais, peut-être qu'on va avoir besoin de cette photo. Je reviens à mon ordinateur, je remets la clé USB, je prends la photo et je repars. Et tout ça, j'ai dit, il faut que je lui dise qu'il ne m'envoie plus des messages, juste quand je vais aller à une journée de pleine conscience, parce que j'ai une longue route à faire. Et après, je me suis dit, et si tu utilisais ça comme une pratique? Alors, imaginez, j'ai un but. On dit, le thème d'aujourd'hui, c'est l'absence de but. Hein, on va jouer avec les mots. Mais j'ai un but. Je dois aller à la journée de pleine conscience. Mais la pratique, c'est d'oublier que j'ai ce but-là. Parce que si de la maison, je suis déjà à l'institut, c'est comme si j'ai sauté quelque chose, j'ai fait un bond et j'ai manqué de là-bas, ici. Alors, dans ma pratique, je me suis dit, rappelle-toi que l'instant présent, c'est un moment où il n'y a rien. C'est le moment où le but est annihilé. Il est enlevé. Alors, pas de but. Pas d'attente. Mais vous allez dire, comment je vais faire pour vivre? Pas de but, pas d'attente. C'est de ramener toute la pratique à ce qu'on fait juste maintenant. Alors, bien sûr qu'on a des attentes. D'abord, on a juste l'attente que le matin, je vais me réveiller, que je vais être vivante, que je vais pouvoir descendre du lit, que je vais pouvoir marcher, et que je vais pouvoir m'habiller, que je vais pouvoir manger. Et j'ai faim, et j'ai soif, et j'ai des tas de choses à faire. Maintenant, la différence avec la pratique et la non-pratique, c'est que si on suit ce train de vie-là, et si on sait, on voit tout ce que j'ai envie de faire, tous ces désirs qui m'emprisonnent, qui me donnent des angoisses, comme on l'a lu, on l'a fait avec la méditation, si je les suis et que j'oublie ma pratique, c'est là que l'angoisse me possède, s'empare de moi, et le stress s'empare de moi. Et ma vie n'est qu'une suite de courses effrénées une après l'autre. Dans la méditation, j'avais écrit le mot vache, mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes ici, je l'ai enlevé, je ne l'ai pas utilisé. Les vaches, vous avez lu, on l'a lu, ok. Le fermier, ses vaches sont parties, il est désespéré. Les vaches, c'est les possessions, et ça peut être élargi. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons avoir, posséder, ou même tout attachement, toute habitude peut être une vache. Parce que c'est quelque chose après laquelle je cours. Je veux l'atteindre, je la veux. Sans elle, je suis perdue. Alors, non. Notre pratique, c'est de savoir qu'on a des désirs et en avoir. Savoir qu'on a des aspirations et en avoir. Mon aspiration, c'est d'apprendre à pratiquer et d'apprendre à me contenter, comme il dit, de moins en moins de choses. Vous imaginez sans douche, avec un lit et les moustiquaires et tout ça. On est très gâtés. Moi, j'aurais de la difficulté. Pas de douche le matin, ça me fera souffrir. Je le sais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On a cette pratique-là qu'on va prendre et adapter à notre quotidien et à notre vécu de tous les jours. Et je me dis, ma semaine est chargée, j'ai beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez du travail, vous avez plein de choses à faire. Maintenant, il y a des choses qu'on n'aime pas faire et d'autres qu'on préfère faire. Maintenant, apprivoiser ces choses qu'on n'aime pas faire, les regarder. Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Oh, je dois aller là-bas, je n'ai pas envie de faire ça. Et disons que chaque semaine, où c'est quelque chose que, je n'ai pas envie de le faire. Mais si on le regarde, et si on voit que cette chose-là, c'est une chose en soi, mais elle n'est pas là encore. Disons que cette chose-là, c'est vendredi, j'ai un rendez-vous vendredi et je n'ai pas envie. Ouais. Mais vendredi n'est pas encore là. Ce que j'ai à faire, moi, c'est d'être à dimanche. Et encore, c'est même pas dimanche, c'est de rendre le dimanche minuscule à cette heure-ci. Imaginez, avant que l'aiguille ne passe à l'autre étape, si j'arrive à m'établir juste là, maintenant, je suis complètement libérée. C'est vraiment une pratique. Mais là, je vous parle avec des mots. Ça peut être très difficile. C'est comme des concepts, encore des concepts. Mais il faut vraiment fermer les yeux, vous regarder, rentrer dans, en vous-même, rentrer dans, je dis chez moi, je suis arrivée. Chez moi, c'est chez vous, là où vous êtes. Quand j'ai reçu le, en anglais, c'est, tu l'as montré la photo de, I'm truly home, I'm truly. Ah, ça passe, ça tourne, c'est bien. Ok. Je suis vraiment arrivée. Je suis vraiment chez moi. Je suis là, seulement là. Là et seulement là. Parce que je peux être là et pas là non plus. Alors, c'est quelque chose qu'il faut tout ramener à un espace infime, mais en même temps immense. Immense parce qu'il est libre, parce qu'il n'y a rien. C'est l'espace vaste. On a la chanson, on va la chanter tout à l'heure. Je suis l'espace libre. Un espace où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de frontière, ça c'est l'instant présent. L'espace d'une respiration, c'est l'instant présent. Je suis vraiment chez moi. Je suis vraiment arrivée. Vraiment, ça veut dire mon cœur, mon corps, mon esprit n'est pas ailleurs. Mon esprit ne pense pas à un autre travail, à ce que je vais faire ce soir. Je vais aller voir maman, je vais voir ma tante, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'y suis pas. Alors ça, c'est la roue, c'est l'outil, c'est le salut. C'est le salut pour prendre nos vies en main, pour prendre, pour gérer. On a des cours qui s'appellent gérer le stress. C'est ça, gérer le stress. Gérer le stress, c'est gérer son temps. Et gérer son temps, c'est gérer l'heure, la seconde, la fraction de seconde. Chen Hui parle des trois joyaux. Les trois joyaux, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha a dit, avant de mourir, parce que quelqu'un lui a posé la question, il a dit, comment est-ce que je dois faire? Quelle est ma pratique? Parce que Bouddha a dit, je peux prendre une dernière question, juste avant de mourir. Et son disciple, très proche, a dit, non, vous êtes trop fatigué. Bouddha a dit, non, je vais écouter. Et quelqu'un lui a demandé, comment est-ce que je peux faire? Donnez-moi un conseil. Quel conseil me donnez-vous avant de partir? Le Bouddha a dit, prenez refuge en vous-même. Et en personne d'autre, même pas en moi. Prenez refuge en vous-même. Quand on est seul, entre guillemets, ça veut dire qu'on est libéré du passé. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le futur. Vivre seul, il dit, apprenez à vivre seul. C'est pas seul dans une maison solitaire et je ferme la porte et je suis tout seul chez moi. Non, je peux être seul dans une foule. Je peux être seule dans une foire, je peux être seule dans la ville, mais je peux être seule maintenant. Vous pouvez être seule maintenant si vous êtes pas, si vous n'êtes pas dans vos pensées d'hier, si vous n'êtes pas attiré par demain, si vous êtes juste dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est ça apprendre à vivre seul. Seul. Je prends refuge dans le Bouddha. Il vient de dire de ne pas prendre refuge en lui. Mais le Bouddha, c'est aussi un autre concept. Alors, le Bouddha d'abord était un homme, et aussi, c'est une personne qui s'est éveillée. Comment ? Éveillée, c'est « Ah, tiens, j'ai compris !» C'est ça. Il a compris. Il a compris que tout est impermanent, il a compris que tout est interdépendant, que tout est interrelié, et que rien n'existe sans une autre chose avant. Que ça existe parce que ça existe. Et une fois qu'on comprend cela déjà, et on voit que tout finit, que rien ne dure, pas même nos sensations, pas même nos émotions, les choses qui nous font souffrir, que tout ça c'est impermanent, nos pensées sont impermanentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit la vie, Chen Hui parle du film, on voit la vie se dérouler, des films, des films, des films, des... tout à coup on arrête, pause. et je regarde. Juste cette image, pause, juste cette image, c'est l'instant présent. Je peux m'arrêter, j'ai le pouvoir de m'arrêter. Le Bouddha, c'est de regarder toute la vie autour de moi. Tout, que le soleil se lève et que l'eau s'évapore et devient nuage. Et qu'après il pleut et que ça devient neige. Et que de la boue, il va y avoir un lotus. C'est ce qu'il appelle le dharma. Le dharma, c'est la vie, c'est les phénomènes, c'est l'univers, c'est la vie. C'est comme ça la vie. Prenez refuge dans la vie. Prenez refuge dans ce qui arrive maintenant parce qu'on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire, non, je ne veux pas que ce soit le jour aujourd'hui. Ou bien non, je ne veux pas que la nuit tombe, ça me fait peur, j'ai peur du noir. On ne peut pas faire ça. On va se laisser couler avec la vie et accepter ce qui arrive. Quand la météo annonce un blizzard, ah non, ben on râle. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas râler. Ça ne sert à rien. Alors, prendre refuge dans le Bouddha, c'est prendre refuge dans ce qu'il a enseigné, c'est prendre refuge dans ce qu'il a compris. Et ce qu'il a compris, c'est la vie. Alors, il n'a rien compris de quelque chose d'extraordinaire. On est capable nous-mêmes de le comprendre. Quand on voit que les enfants grandissent et grandissent et grandissent, et après, âge adulte, et après on redevient, on vieillit. Et c'est comme ça, la vie. Alors pourquoi se révolter? C'est ça, prendre refuge dans le dharma, prendre refuge dans ce qui est. Troisième joyau, c'est la sangha. La sangha, c'est la communauté qui vient pratiquer ensemble, qui suit les enseignements, qui aime cette pratique. Ce n'est pas une religion, c'est juste la vie, c'est la pleine conscience. Les personnes qui aiment apprendre à vivre en pleine conscience sont là. On se met ensemble et on devient une sangha, une communauté. Alors, c'est ça. Allez. Et prendre refuge dans la sangha, pourquoi? Parce que quand on vient méditer avec des amis, on est soulevé, on est porté. C'est facile parce que si je vois Gilles marcher comme ça, je vais voir que moi, je marche comme ça. Il marche comme ça, je vais marcher comme ça. Si je vois quelqu'un d'autre manger tout doucement, si je vois l'autre s'arrêter quand la cloche sonne, ça m'inspire. Ici, j'ai du support. Et alors, on se retrouve en soirée et on médite ensemble et on prend refuge dans la pratique de la sangha. Maintenant, il y aurait beaucoup de choses à passer en revue. Les trois portes de libération, les trois sauts, et tout ça, tout ce qu'on dit, ça va, si vous vous imaginez un courant, une rivière, tout va ramener à pratiquer l'instant présent. Tout simplement. Je veux me libérer de la souffrance. Le bouddhisme, c'est ça. C'est la souffrance existe. C'est ça qu'il a vu, Bouddha, quand il s'est assis. Il a dit, vraiment, la souffrance existe. Je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas nier que la souffrance existe. Et c'est quoi la souffrance? C'est juste le fait de se lever, respirer et mourir après, c'est déjà une souffrance. Aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, c'est une souffrance. M'attacher à quelqu'un qui est loin de moi, c'est une souffrance. Vouloir trop de choses, c'est une souffrance. Et cette souffrance s'est élargie et a pris le terme de insatisfaction. C'est une insatisfaction. L'être humain est insatisfait. Pensez-vous que les vaches soient insatisfaites? On les voit paisibles. Ah, pourquoi quand on va à la campagne, on est heureux juste de voir des vaches brouter? Et on voit les moutons tranquilles, comme ça. Et les chevaux sous les arbres, ah, ils sont paisibles. Et on se demande, est-ce qu'ils sont insatisfaits? Est-ce qu'ils disent, oh, j'en ai marre de ruminer, comme les vaches disent, j'en ai marre, tout le temps je rumine. Ben, elles n'y pensent même pas, mais nous on y pense, et on rumine, et on n'arrête pas de ruminer, on n'arrête pas de le faire. Mais quel bonheur alors, juste de voir ça. Donc cette insatisfaction-là, aussi la bonne nouvelle que dit Bouddha et que dit Thay, c'est que cette insatisfaction aussi a une fin. On peut l'arrêter. D'abord, on la regarde, on accepte que la souffrance existe, on se pose la question, c'est quoi cette souffrance? D'où elle vient? Pour moi, moi personnellement. Parce que, okay, on peut être philosophe et se demander d'où vient la souffrance du monde, mais si je continue à être malheureux toute la journée, tous les jours et tous les mois, toute ma vie, à quoi ça sert d'être philosophe? Alors juste, cultive ton jardin, occupe-toi de ceux qui te regardent et de ta souffrance et commence à t'arrêter. Regardez le cercle, c'est comme on va loin et puis on revient là, je m'arrête. Je m'arrête ici au Zendo, je m'arrête chez moi, je m'arrête dans la voiture, je m'arrête avec la cloche parce que je veux commencer à retrouver ma souveraineté. On a une chanson, je suis solide, solide, parce que je ne suis pas ballottée par les pensées, je ne suis pas ballottée par ma souffrance. Une fois que j'ai vu, que je touche, rappelez-moi de vous donner des feuilles, là, la cause de la souffrance, ma souffrance à moi, un papier, un crayon, qu'est-ce qui me fait souffrir? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes aspirations? Ça peut être bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ce... J'aime ce mot en anglais, c'est « the drive ». C'est comme ça me prend, ça m'occupe, ça me préoccupe, ça me possède. Et on le sait, les romantiques, ils avaient le spleen. Oh, on a des images où ils sont comme ça et ils rêvent, okay? Ils sont malheureux. Pourquoi? Beaucoup ne le savent pas. Alors ils se perdent dans les paradis artificiels. Baudelaire, Rachiche. Ils se perdent. L'absinthe, on a des tableaux de Degas où on les voit, l'absinthe. Ils se perdent là-dedans. Alors, nous, on le sait, mais on a la pleine conscience qui va nous ramener ici et qui va... Et ici, c'est là. Là, tout de suite, juste là. Ok? C'est ça dans la pratique. Cette journée de pleine conscience, c'est pour faire un modèle de pratique. On vient ici, on médite assis, on écoute un enseignement pour nous aider. On pourrait ne pas avoir d'enseignement aussi, parce que juste de la pratique, c'est l'enseignement. Et une fois qu'on va quitter la journée de pleine conscience, je saute là, c'est que on part sans rien. On laisse tout ça ici. On a deux pieds, on part avec nos pieds. C'est là qu'on va pratiquer, dans nos pieds. Même, on peut tout laisser là, comme ça. On peut laisser l'enseignement, on peut tout laisser. On va partir avec notre démarche, avec soi-même, avec son refuge. Alors, on est libre. J'aime l'image de la maman qui allaite, elle a son lait avec elle. Elle peut partir avec son bébé, même si tous les magasins sont fermés. Son lait avec elle. Alors nous, quand on quitte le Zendo, on a notre pratique avec nous. Partir sans rien. On peut aller dans une île, on peut aller dans une autre ville. Je pense que Chen Hui, il est parti avec très peu de bagages. Et s'il était heureux en Thaïlande, dans ses abris de fortune, dans ses chaumières, c'est parce que sa pratique est très forte. C'est parce qu'il pratique le détachement. Et il a vu que des moines sont capables de vivre comme ça. Alors il se dit, pourquoi? Et pourtant, Chen Hui est marié, il a une femme, il a deux enfants, deux filles. Okay. Mais il a vu que le bonheur est possible là-bas, sans douche, sans lit, sans l'ordinateur de temps en temps. C'est difficile. Est-ce qu'on est capable? Alors c'est ça. C'est partir n'importe où et avoir en nous notre pratique. Et puis, on pratique aussi la marche. On va la pratiquer dehors. Manger en pleine conscience. On va manger sans journal, sans télévision. On va juste s'asseoir. Personne ne va parler. Et on va apprendre à manger en pleine conscience. On va apprendre à regarder ce qu'on a dans notre assiette. On va voir l'intérêt dans notre assiette. On va voir de quoi sont faites toutes ces choses. Vous avez certainement entendu la viande de cheval dans la viande de bœuf. cette histoire. Vous avez entendu à la radio? Ok. Toutes ces choses-là, tout ce qu'ils font, comment ils trafiquent la nourriture. Alors, ce moment de pleine conscience dans la nourriture, c'est de regarder aussi. Et aussi de prendre conscience des amis qui sont avec nous et de s'asseoir avec d'autres personnes qui pratiquent. On va avoir une discussion du dharma où on va avoir des échanges cet après-midi. Et on va pouvoir poser nos questions et on va pouvoir échanger sur notre pratique, dire comment c'est pour nous la pratique de la pleine conscience. Et puis une fois qu'on est parti, une fois qu'on a quitté, demain c'est lundi, bah, vous pensez que c'est différent? On ne sera pas dans un zendo. Un zendo, c'est une salle de méditation. On sera dans un bureau, on sera dans un métro. Je ne sais pas où est-ce qu'on sera. Chez le docteur, j'espère que non. À l'école. On devra marcher. On doit ouvrir la bouche. On doit manger. On doit aller aux toilettes. Et tout ça, c'est la pratique. Alors, les journées de pleine conscience, c'est des journées de pleine conscience tous les jours. Chez nous, n'importe où, c'est une journée de pleine conscience. Alors, vous êtes venus ici et on vient tous les mois pour pratiquer ensemble avec les amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert notre pratique, peut-être l'Internet ou je ne sais pas, mais je ne sais pas à quoi vous vous attendiez non plus. Il ne faut s'attendre à rien. C'est ça. Et en plus, le thème d'aujourd'hui, c'est quelle attente? Ah, je vais apprendre. Est-ce que je vais avoir des réponses aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir des recettes aujourd'hui? Oui, il y en a. On vous donne des recettes. La cloche, le téléphone, quand vous avez un téléphone chez vous, vous avez un cellulaire, chaque fois qu'il sonne, cloche. Vous arrêtez, vous respirez. Vous entendrez le bip de l'ascenseur tout à l'heure. La cloche est là-bas. Vous serez dans la voiture, vous aurez un feu rouge, vous aurez un arrêt. Profitez-en. C'est ça la cloche, c'est ça les stops. Chaque voiture qui sera devant vous a une plaque. Je me souviens, on est très chanceux au Québec. On a plein de voitures comme ça. On a plein de cloches. Chaque voiture qui est devant nous, je me souviens. Ils devraient faire ça dans les bicyclettes aussi ou n'importe où. Et Thaï a adoré ça quand il a vu la voiture devant. Il a dit, vous pratiquez très bien au Québec. Alors, c'est ça. Donc, quand je dis, ne vous attendez à rien, vous avez entendu, mais vous allez partir. Personne ne va aller avec vous. Le Tianhui ne va pas être là. La pratique, l'ordinateur, la cloche. Vous allez seul dans la rue, peut-être deux, mais votre pratique est avec vous. Vous avez votre lait avec vous. Alors, ce sera ça la pratique de la journée de pleine conscience. Maintenant, c'était quoi les trois portes de libération? Alors, les trois sceaux d'abord, les trois sceaux, c'est que tout est impermanent, tout est interdépendant et tout est nirvana. Alors, moi j'adore ce mot. Quand vous entendez parler de nirvana, vous pensez le paradis, vous pensez une contrée lointaine, les îles de Thaïlande avec l'eau verte et les beaux rochers, les palmiers. Ok, ben, la pratique, grâce au Bouddha et grâce à Thaï, c'est que la Thaïlande, elle est juste là, dans chacun de nos pieds, dans l'instant présent. Que le nirvana, c'est qu'une fois qu'on ne pense plus, ah, il faut que je pratique, ah, il faut que je comprenne l'impermanence, il faut que je comprenne que tout est interdépendant, il faut que je comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça y est, ok, on lâche tout ça. On s'installe avec ce qu'on a, au niveau où on est, à l'étape où on est, de notre vie, de notre évolution, de notre croissance, et on pratique là. C'est pas les questions, les personnes nous posent des questions par Internet. J'ai jamais médité, est-ce que je peux venir? Ou bien, vous avez commencé déjà en septembre, est-ce que je peux venir méditer avec vous? Mais il n'y a pas de prérequis. Ici, tout le monde rentre tout de suite dans l'eau. C'est comme si on plonge dans l'eau, dans la rivière, et on avance avec l'eau qui avance. C'est la pratique de la pleine conscience. Pourquoi il n'y a pas de prérequis? Est-ce qu'il y a un prérequis à l'instant présent? Chaque instant présent est un instant présent. Il n'y en a pas. Le temps de le dire, il y en a un autre. Alors, si vous allez manquer celui-là, il y en aura un autre qui va venir. C'est ça. Alors ça, c'est les trois sauts. Il les a appelés sauts parce qu'il a vu que vraiment que la pratique réside là. Tampon, impermanence, interdépendance, nirvana. Nirvana, se libérer des concepts, se libérer des comparaisons, se libérer des jugements, se libérer de tout ce qui entrave ma sérénité. Et c'est juste prendre le nirvana et en faire un instant présent, ou alors prendre l'instant présent et en faire le nirvana. Alors, le nirvana, c'est un autre sceau qui est présent là tout le temps. Juste quand je regarde ce bambou, avec cette petite eau qui coule là-bas, pour moi, c'est le nirvana. C'est le bonheur, c'est la tranquillité. Pour se libérer et pour revenir au nirvana, on se débarrasse des signes, le courage, c'est long, tout le cours, tous les signes, qui suis-je, qu'est-ce que la durée de vie, est-ce que je vis vraiment 100 ans? Non, on ne vit pas seulement 100 ans. Est-ce qu'un nuage vit 100 ans? L'eau du nuage, elle s'est évaporée, elle est allée dans le nuage, elle a été en Thaïlande, et de Thaïlande, il y avait un vent fort qui l'a poussée, qui l'amène au Mexique, et au Mexique, qui la ramène en Floride, et la Floride, qui la ramène au Canada. Et c'est cette goutte d'eau, c'est toujours cette eau dans le ciel qui... C'est ça. Alors ça, c'est une notion. Pensez que je nais maintenant, je meurs là, et c'est fini. OK? Bon, alors ça, c'est la durée de vie. Alors, pas de signes. Les connaître, mais s'en défaire. S'en défaire. Tiens, voilà un autre mot pour Chenui, s'en défaire. Et la vacuité, ouf, ça fait peur. C'est le être vide d'une identité propre. Je n'ai pas une identité propre. Ça veut dire qu'il y a de l'eau en moi, il y a de la terre en moi, il y a de l'énergie, il y a de l'air. Donc, je suis vide parce que je ne suis pas comme ça. Mais je suis ça et 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 ça. Et je suis tellement ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Je suis tellement pleine. C'est ça. Vide parce que je suis trop pleine. Pleine de tout l'univers en moi. Juste un dernier. Et l'absence de signe, le troisième. L'absence d'attente. Pas d'attente. Pas d'attente, c'est ramener tout ça. Une fois que je me suis débarrassée des signes, une fois que j'ai compris que le non-soi existe et que j'interagis avec tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je m'installe dans ce moment. Je m'installe dans cette satisfaction que je n'ai rien à poursuivre, que je n'ai pas besoin d'aller très loin pour comprendre que le bonheur, ça peut être maintenant et c'est maintenant. Si je l'ai décidé, si je le fais mien, si je rentre dans cet instant de pratique et dans chaque pas,